Bienvenue dans Chemin Rêvant. Bienvenue dans Chemin Rêvant. Bonsoir Fariba Ajtroudi.
Bonsoir à vous.
Merci d'être venue pour partager ce moment dans la nuit et pour nous parler de votre nouveau livre « La gelée royale » édité chez Encre d'Orient. C'est un roman, mais en préparant cette émission, on s'est parlé. Et comme nous sommes finalement dans ces heures où l'on peut se confier, vous me disiez Fariba que vous vous sentiez un peu prisonnière parce que c'est vrai, vous venez d'Iran, vous avez beaucoup travaillé sur l'Iran, vous avez écrit des essais sur ce pays pour dénoncer l'obscurantisme qui frappe cette nation que vous aimez. Et là, avec la gelée royale, vous vous attaquez au monde de la beauté, vous vous attaquez à une famille, les Alencourt, qui effectivement rappelle un autre nom qui a défrayé l'actualité. Mmh. Et vous me disiez, eh bien, vous aviez le sentiment que les gens n'acceptaient pas ce changement de cap, comme si finalement on voulait que Fariba, ce qui est très bien d'ailleurs, mais soit uniquement consacré sur des livres dévolus à l'Iran. Et là, quand vous vous attaquez à d'autres tabous, à d'autres questions de société, vous avez l'impression que les médias sont moins intéressés.
Je ne sais pas si c'est conscient, mais en tout cas, je remarque effectivement que ici, on aime bien les cases. On aime bien vous mettre dans une case et puis vous n'en sortez pas. Et d'ailleurs, c'est même vrai en ce qui concerne l'édition. Par exemple, vous proposez un livre et ils vous disent « Ah, il n'y a aucune collection pour ça ». C'est assez étonnant, vous savez, comme si la vie avait des cases. Mais comme je vous disais, je ne sais pas si c'est conscient ou si c'est inconscient. J'ai écrit effectivement d'autres romans et c'est vrai que mes trois autres romans étaient plus ou moins sur l'Iran, sauf J'ai épousé Johnny, notre homme de Sion, qui était également sur la France, les années 60, quand je suis arrivée en tant que pensionnaire. Mais là également, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup aimé ce livre, mais ça n'a pas fait le succès de Iran, les rives du sang, qui était sur l'Iran. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en effet, je pense que attaquer, sinon la famille Alencourt, mais les travers de l'Occident, c'est comme si pas touche, ça ne te regarde pas. Je ne sais pas, je me le demande, hein, c'est une question.
Et au départ de ce livre, il y a ce que vous écrivez, bien sûr. Ce livre n'est pas dédicacé aux multinationales, boursificateurs, pollueurs de la planète, traders, politique véreux, marché financier, marché de rêve impossible.
Oui, marchand de rêve impossible, oui, absolument.
Parce que vous croyez qu'on peut être marchand de rêve possible?
Oui, bien sûr, des utopies de rêve possible, mais marchand, non. Mais il y a des utopies qui, sans utopie, vous ne vivez pas. En tout cas, moi, sans utopie, je ne vis pas. Je ne peux pas essayer de m'élever. Mais quand on vous dit la jeunesse éternelle et qu'il ne faut pas avoir de rides et que on vous matraque avec un consumérisme absolument stupide. Mais je vais vous dire, la raison profonde également de ce livre, comme je le dis très souvent dans les endroits où on m'invite assez souvent en ce moment, j'essaye d'expliquer aux gens pourquoi la gelée royale a un rapport direct avec l'islamisme. À votre avis, ça en a ou pas ?
Parce que, d'une certaine manière, la femme se masque.
C'est pas que la femme. Moi, je me dis, dans la mesure où l'Occident est en pleine décadence et que l'Occident renie ses propres valeurs, Regardez que ça soit, on pourra en reparler éventuellement, mais que ça soit la laïcité, que ça soit l'humanisme, que ça soit, et je suis bien placée pour le savoir, hein, quand on recevait les mollahs sur les tapis rouges parce qu'on pensait que c'était des modérés, des machins, des blancs, je me dis, ben justement, qui avance à ce moment-là, c'est des idéologies totalement, que ce soit l'obscurantisme islamiste ou que ce soit l'extrême droite, qu'on voit prendre du terrain un peu partout en Europe. Parce que l'Europe progressiste et l'Europe qui n'arrive pas d'ailleurs à se faire, mais là on rentre en pure politique, et qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on offre effectivement à nos jeunes en ce moment, à travers la télé, à travers le cinéma américain, à travers enfin, beaucoup de films de violence stupide. Et quand il y a des niches de culture, je suis désolée, on ne les entend pas tellement. Hein. Alors pour revenir à la femme, effectivement, je le dis très souvent, une femme qu'on enchadore jusqu'aux yeux et une femme qu'on dénude pour vendre un pot de yaourt, quelque part ça revient au même. Une femme qui se met nue parce qu'elle a envie de se mettre nue, c'est autre chose. Hein. Mais qu'on veuille vendre sur les fesses d'une femme, ou qu'on ait peur des fesses d'une femme et qu'on la cache jusqu'aux yeux, bah quelque part, ça se rejoint.
Love the behavior.
Nous voilà toujours dans Chemin rêvant avec une voix que vous avez bien entendu reconnue, Fariba Ashtroudi. Comment s'appelle cette chanteuse qui porte toutes ces belles paroles où il est question du cœur humain ?
C'est Marzieh, c'est notre grande diva nationale qui vient d'être décédée il y a à peu près 15 jours. Ça me vraiment déchire le cœur. Je vous avais dit effectivement que j'aurais voulu lui rendre hommage à France Musique. C'est une occasion pour moi de dire que c'était une authentique artiste, une très grande dame, une sublime voix, une grande résistante et une femme unique d'une beauté extraordinaire. J'ai eu la chance et l'honneur de la côtoyer en exil pendant de longues nuits, parfois jusqu'à l'aube où elle chantait dans mon petit appartement et elle faisait vibrer les vitres de mon appartement. On rêvait qu'on rentrerait un jour en Iran, dans un Iran libre. Hélas, elle n'a pas pu le voir, mais un jour certainement l'Iran se libérera. Elle n'a pas pu chanter pendant les dernières années de sa carrière, avant de sortir évidemment de quitter l'Iran. Elle me disait, tu sais Fariba, quand j'avais mal au cœur, quand j'avais gros cœur, j'allais dans les champs et je chantais pour les oiseaux. Et les oiseaux me répondaient. Et je suis sûre que là où elle est en ce moment, elle chante pour les anges. C'était une grande dame et j'aimerais vraiment lui rendre hommage ce soir.
Et son pays natal ne lui a pas rendu hommage ? Le régime en place
Pensez-vous, le régime en place pense que les femmes n'ont pas le droit de chanter. Déjà, la voix féminine est la voix du diable. Elle a été écartée pendant des années, elle a été malmenée. Et quand elle a quitté l'Iran et qu'elle a effectivement rejoint une résistance radicale, le régime l'a carrément déclarée ennemie de Dieu, comme tous les gens qui sont contre eux d'une façon ou d'une autre. Mais Marzieh, effectivement, appartient à tous les Iraniens et les Iraniens lui ont rendu hommage partout dans le monde, dans leur cœur. Et je suis sûre, quand je suis rentrée en Iran en 2006, dans le taxi, il y avait une chanson de Marzieh chantée par un homme, une voix franchement qui n'était pas à la hauteur de Marzieh. J'ai dit au taxi, au jeune taxi, mais vous n'avez pas honte de mettre cette chanson? Il me dit, madame, l'original, je l'écoute chez moi. Voilà.
Est-ce que c'est difficile quand on est écrivain comme vous, qu'on signe effectivement cette gelée royale, ce roman ou d'autres livres, de savoir que théoriquement, légalement, pratiquement, vos compatriotes dans leur pays ne peuvent pas vous lire. Est-ce que des fois, cela construit en vous une forme d'angoisse, une forme de manque, comme vous voyez, ce chaînon manquant qui continue de nous obséder?
Vous savez, moi j'ai choisi la langue française, c'est ma langue de refuge, c'est ma langue d'écriture, j'adore cette langue. Donc c'est un choix délibéré, donc je savais a priori dès le départ que c'était, si vous voulez, je n'écris pas dans ma langue natale. En revanche, de ne pas être traduite, de ne pas être traduite effectivement, bien sûr, mais je ne suis pas ces considérations en ce moment. En ce moment, très sincèrement et très humblement, je le dis sans fausse modestie, c'est pas tellement moi qui compte. Si je peux être la voix de ces compatriotes qui ne peuvent pas, elles, parler et dire ce qu'elles ont à dire sur place, c'est déjà beaucoup. Je m'estime déjà heureuse de pouvoir être la voix de ces femmes et de ces hommes emprisonnés, torturés, violés en Iran. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit une fois, je pense à une autre émission où nous étions ensemble, l'écriture s'est imposée à moi. Moi, je suis archéologue de formation. C'était mon rêve d'aller faire des chantiers de fouilles en Iran, dans mon désert de Lout que j'adorais. Et c'est quand M. Khomeini est arrivé que je me suis dit, je ne peux pas rester dans les sous-sols du Louvre et regarder mes tessons, il faut que je dénonce ce qui se passe dans ce pays. Et de fil en aiguille, effectivement, tout ce que j'écris, c'est essayer de donner un peu de conscience à mon entourage. Et pour revenir à la gelée royale, je l'écris pour également dire aux Européens ou aux Occidentaux ou à mes nièces et mon neveu qui sont des Français, parce que éduqués ici, élevés ici, leur mère est d'ailleurs française, c'est de leur dire, faites attention, la démocratie, ça se soigne, ça se préserve, c'est pas... faites attention parce que c'est pas inné, ce sont pas des choses innées, que les choses vont mal dans le monde en ce moment, y compris ici. Et comme je vous le disais au départ, quand je vois un peu à quel point l'Occident se vide de ses valeurs fondatrices, la France notamment, que j'aime beaucoup comme mon pays d'adoption, je me suis dit, ben, y a pas que les mollas. Donc, effectivement, un Berlusconi, vous savez, je n'ai pas plus d'estime pour un Berlusconi que pour un Ahmadinejad. Et si un Berlusconi ne viole pas les gens en prison, je ne sais pas si ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est parce qu'il y a encore des institutions dans ces pays-là, c'est parce qu'il y a un peuple italien qui l'en empêche. Lui, je n'en suis pas si sûre, vous voyez ce que je veux dire.
Thank you.
Fariba Ajtroudi, vous avez écouté attentivement et sérieusement cette composition. Est-ce qu'elle vous évoque un pays ou pas? Vous avez le droit de dire non, hein, puisque à l'heure qu'il est, tout est permis.
Oui.
Ah, bah alors dites-nous.
Autriche.
Alors, ça pourrait être l'Autriche, d'ailleurs, qui est évoquée dans votre livre « La gelée royale ». Mais on voit que la musique est magique parce qu'elle entraîne des perceptions extrêmement variées. C'est une composition d'un auteur cubain, d'un musicien cubain, Ignacio Cervantes, qui s'appelle Sergio Caprichoso, interprété par Orquesta Solistas de la Habana sous la direction de Maria Elena Mendiola. Et il est vrai que dans la gelée royale, dans l'histoire de cette journaliste pas très bien dans son travail parce qu'on lui demande d'écrire sur les spas alors qu'elle voudrait sans doute s'attaquer à des réalités plus sérieuses, cette enquête autour de ce produit beauté miracle, la gelée royale, avec en toile de fond cette famille Alencourt, qui n'est pas sans rappeler une autre famille qui défraie l'actualité, on l'a dit, eh bien, arrive en toile de fond Cuba. Et ce qui est surprenant, là où vraiment on ne s'attend pas du tout à ce détour par Cuba, c'est que vous dites d'ailleurs à la fin du livre, Fariba Ajtroudi, que vous avez séjourné à Cuba pour enquêter, pour apporter de la matière à votre ouvrage. Et on sent, au travers de ce que vous nous racontez, que vous avez eu une fascination, en tout cas un intérêt pour Cuba. Alors, vous, cette femme éprise de démocratie que vous incarnez, on pourrait y lire un paradoxe. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce Cuba? Il y a un moment, d'ailleurs, vous le dites dans le livre « La journaliste a des doutes », elle dit « Je suis ici à Cuba, au pays des fidèles de fidèles ». Jeu de mots, elle sent bien qu'elle est, en mauvaise conscience avec elle-même parce qu'elle aime ce pays et en même temps, elle sait que ce pays n'est pas le symbole de ce côté démocratique. Alors vous, Fariba, Cuba, pourquoi?
Mais la journaliste le dit très bien au début. Elle est fille, elle est enfant de mai 68, d'accord ? Ses parents étaient des syndicalistes, des communistes, effectivement, et des utopistes. Donc, elle n'y croit absolument pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle aime le capitalisme sauvage, ni le capitalisme tout court. Mais elle n'aime pas du tout les pays communistes, qu'elle ne connaît pas d'ailleurs, pour des tas d'histoires que je ne veux pas raconter parce que son père est parti à Cuba, etc. Et ce paradoxe, c'est justement la voie du juste milieu pour moi. C'est que, entre, comme je vous ai dit, l'utopie vous tient et vous mène, en tout cas, essaye de vous élever. En revanche, quand vous essayez de pratiquer cette utopie, ce qu'on appelait le socialisme réel, ça a donné des horreurs, effectivement, comme on le sait. Mais néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir d'utopie et il ne faut pas reconnaître que la révolution cubaine était quelque chose de magnifique au début et qu'en ce moment, effectivement, encore une fois, à cause de l'enfermement des vieux barbus qui sont restés sur leur, dans leur bouée, dans cet enfermement, ça a donné quelque chose d'assez terrible. C'est ce que j'ai vécu, moi, à travers l'opposition pendant ces 30 années. J'étais avec un groupe utopistes au départ, mais dont l'enfermement a fait qu'ils ont complètement dévié et qu'ils m'ont fait énormément souffrir quand ils ont fait souffrir beaucoup d'autres gens.
Et pour être bien clair, Fariba, ce groupe d'utopistes, c'est des utopistes iraniens.
Oui, oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'ils étaient le contre-pouvoir de l'obscurantisme d'Ahmadinejad.
Absolument.
Et même cette opposition qui est pourtant censée être le côté démocratique, le côté lumineux de ce qui se passe dans votre pays, même ce côté lumineux a été entaché de déception pour vous?
Énormément, parce qu'il y a un tel enfermement dans les... Quand il y a l'idéologie et que l'idéologie s'enferme, ça devient quelque chose de terrible. Quand vous ne savez pas vous ouvrir et quand vous vous accrochez à des schémas mentaux absolus, justement, et c'est ça, l'idéologie c'est ça, la religion ça l'est par excellence, mais justement quand on dit que le communisme version stalinien a été une religion, c'est ça. Donc Cuba, ça a été, c'est vraiment ça. Cuba, quand vous allez à Cuba, vous êtes pétri de contradictions. Il y a des choses que vous adorez, comme il y a un des personnages qui le dit dans le livre, et le personnage c'est d'ailleurs une BCBG qui travaille pour la famille Alencourt, elle va là-bas. Et effectivement, c'est ce qui m'est arrivé. Vous arrivez à Cuba, il n'y a pas de magasin de mode, il n'y a pas de consumérisme, Et vous vous reposez, c'est un repos. Par contre, il y a de l'art partout. il y a de la musique partout. Il y a, alors, après, il y a de la pollution également partout. Après, il y a ce que vous entendez, la misère des gens, comment ils vivent, eux, dans leur quotidien. Vous êtes pétri de contradictions, effectivement. C'est vrai que c'est une des populations les plus éduquées du monde. C'est vrai que vous avez les meilleurs spécialistes de ceci et de cela. Donc, j'ai essayé, effectivement, de rendre un peu ça. Et surtout, quand vous voyez l'art à Cuba, il y a d'immenses artistes et vous vous dites, mais c'est absolument fabuleux. Et l'art pour l'art, quelque part, parce que comme ils ne peuvent pas vendre, mais ils aimeraient bien vendre, hein, parce qu'ils vivent en même temps dans des conditions lamentables. Donc, c'était un peu ça. En fait, j'étais allée à Cuba pour le prochain roman que je suis en train, sur lequel je travaille depuis quelques années, mais j'ai profité pour en mettre une partie dans ce roman, la partie, disons, la plus... Oui, c'est la partie la plus visible pour tout voyageur qui part à Cuba. Il y a des choses qui vous époustouflent, vous adorez, parce que vous vous dites, mon Dieu, on est tellement loin de justement de l'abrutissement total, tous les jours, de la publicité, etc. Mais il y a un autre abrutissement là-bas aussi, c'est qu'on ne vit pas là-bas. C'est d'écouter fidèle 10 heures à la télévision, pardonnez-moi, ces discours depuis le début de la Révolution jusqu'à maintenant, ça abrutit également. Donc, vous voyez, bon...
Oh,
ce Domine Jesus, extrait du Requiem de Mozart, interprété par le Philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado, avec notamment Sarah Mingardo, Michael Schad, Rachel Arnisch, Brinterfell et Carita Matila. Tout cela au cœur du chemin rêvant que vous partagez avec nous, Fariba Ashtroudi. Pourquoi ce Requiem? Parce que, pour tout vous dire, en lisant La gelée royale, un roman qui nous emmène loin de ce Téhéran que vous avez raconté, j'ai repensé à cette petite fille, justement, que vous avez évoquée dans ce fameux livre qui s'appelait « J'ai épousé Johnny à Notre-Dame de Sion ». Et que raconte ce livre? L'histoire que vous avez vécue qui paraît incroyable. Votre père était un scientifique iranien. Il vous envoie bénéficier d'une, entre guillemets, meilleure éducation, et vous atterrissez, si j'ose employer le mot, dans ce monde de bonne sœur, Notre-Dame de Sion. Et on s'interroge toujours sur cette expérience, ça a dû être un choc extraordinaire. Alors, vous rêvez peut-être de Johnny Hallyday en étant dans cet établissement, mais on se dit que la figure de Jésus, la figure de la culture française, vous arrivez à vous souvenir de ce que ça vous procure aujourd'hui? Quel bilan, si, comme on emploie souvent cette expression, même si elle est peu poétique, vous tirez de cette incroyable dépaysement?
Le livre est très romancé. Moi, j'étais à l'école Jeanne d'Arc à Téhéran, donc je connaissais tout ça. Le bénitier, on allait faire des bêtises, mais des bêtises terribles, j'oserais même pas le dire, avec des camarades dans la petite chapelle de l'école Jeanne d'Arc. Mais justement, j'ai fait une fille provinciale. D'ailleurs, le père n'est pas du tout scientifique dans le livre. C'est un fonctionnaire de l'État. C'était un peu l'image de mon oncle, qui arrive ici sans parler français, etc. Mais justement, comme vous dites, pour montrer le choc des cultures, pour faire comprendre aux Occidentaux que s'il y a des tas d'aspects de l'islam qui leur échappent et qui leur paraît absolument hallucinant, comme ça peut me paraître, il y a des tas de choses dans le schisme qui me paraissent hallucinantes également, hein, qu'on s'attende à ce qu'un imam, à l'âge de 5 ans, il se cache dans un puits et qu'il va apparaître. Bon. Mais que c'est la même chose dans l'imaginaire des musulmanes peut être vrai. Je me souviens notamment d'une camarade turque qui était arrivée à Notre-Dame de Sion. Alors elle ne connaissait pas du tout effectivement le christianisme. Et je me suis beaucoup inspirée d'ailleurs de ses réflexions en disant, bon, bah écoute, si toutes les bonnes sœurs sont les femmes de Jésus, donc, et si Jésus est le Fils de Dieu, donc Marie est sa mère, et donc Marie est la belle-mère de toutes les bonnes sœurs. Donc vous voyez, dans l'état d'esprit pour une gamine, alors on riait comme ça, effectivement, on se faisait taper sur les doigts, je ne vous le dis pas. Mais je me souviens parfaitement, en revanche, là aussi, de l'enfermement des bonnes sœurs, de l'enfermement idéologique, catholique, oui. Exactement la même chose que chez les musulmans, hélas.
Vous voyez, en discutant avec vous, Fariba Ashtroudi, je me disais, on est au cœur d'un paradoxe, c'est-à-dire que vous venez ici pour nous parler d'un livre qui s'appelle La gelée royale, qui ne nous amène pas normalement, théoriquement, vers l'Iran, et finalement on y revient. C'est-à-dire vous êtes finalement, malgré vous, porte-parole de ce pays que
Mais non, c'est à cause de vous, parce qu'on me posait des questions. Mais pourquoi vous ne parlez pas d'Afrique, justement?
Si je ne posais pas des questions...
Non, mais je taquine.
Alors c'est vrai que effectivement, l'Afrique, merci pour la transition, joue un grand rôle dans votre livre, parce que cette pauvre journaliste... Mais vous voyez, ça nous ramène quand même du côté Téhéran. En tout cas, cette journaliste qui enquête sur cette gelée royale pour...
Une crème miracle.
Une crème miracle. On voit bien qu'elle est un peu paumée. Hein, elle n'est pas très heureuse de son travail.
Elle n'est pas paumée.
Elle est un peu paumée.
Elle est paumée, à votre avis?
Vous dites vous-même qu'elle est encore jeune.
C'est une quoi? Oui, 33 ans.
Et elle sait déjà qu'elle a eu son heure de gloire dans son métier. Elle dit, bah, finalement, j'ai déjà eu mon moment.
Elle pensait que, bah oui, quand elle faisait des enquêtes, moi j'ai senti ça déjà dans ma vie. Elle faisait des enquêtes sociales dans les banlieues, dans les banlieues qui s'étaient embrasées. Et d'un seul coup, on la propulse
à faire des articles sur l'ESPA.
Bon, bah,
et où vient l'Afrique, puisqu'il est quand même tard et les gens nous écoutent attentivement, c'est qu'elle a une espèce de femme de maison, a priori, qui a un nom assez amusant, Mamacha, qui est finalement l'incarnation d'une espèce de sorcellerie africaine qui va même la guider dans ses investigations. Donc là encore, Fariba Ashtroudi, qui nous a menés à Cuba, qui aime toujours l'Iran, le bel Iran, nous emmène maintenant en Afrique. Donc Afrique, fascination.
Ah, totalement. Ah, totalement, mais justement.
Parce que c'est le contraire de l'enfermement.
Je ne connais pas, absolument.
Et c'est dans le votre contraire, vision.
Et c'est le contraire de tout ce que j'ai connu. J'aime beaucoup l'Asie, je connais pas l'Afrique, justement, mais je connais pas mal d'amis africains.
Alors, vous êtes peut-être dans l'utopie.
Et justement, je suis dans l'utopie et je suis également dans cette recherche de la connaissance de l'Afrique. Je vais y aller pour la première fois bientôt, je l'espère. Mais je ne connais pas l'Afrique noire. Mais en revanche, cette joie de vivre, ce côté, je connais pas mal d'Africains qui peuvent parfois m'exaspérer, mais qui me fascinent en même temps, et africaines magnifiques qui me fascinent parce que leur rapport à l'immédiateté est quelque chose qui est totalement contraire à des cultures ancrées comme surtout l'Iran et la culture iranienne qui est tellement nostalgique. La culture africaine me semble tellement joyeuse, tellement, je vous dis, un rapport tellement à l'immédiat, un rapport tellement au présent. Et puis il y a une telle sensualité visible dans toute chose qui m'a vraiment fascinée, effectivement.
Mais vous êtes peut-être victime d'une utopie, là.
Ah, totalement, ça peut l'être, tout à fait. Tout à fait. Ben, je vous le dirai la prochaine fois, à notre prochaine émission, quand je reviendrai de l'Afrique, je vous dirai si j'ai complètement halluciné ou si non. En tout cas, ma Macha, mes lecteurs et lectrices qui m'ont déjà écrit, on l'aime beaucoup, et c'est ça, j'en suis ravie. À telle enseigne que chaque fois, on me dit, mais c'est qui, tu l'as connue? Et quand je leur dis qu'elle est totalement imaginaire, ils me disent, écoute, elle est formidable. Effectivement, c'est quelqu'un qui s'est imposé. Elle devait avoir un tout petit rôle et finalement, elle a eu un rôle assez important.
Alors Fariba Achtroudi, nous n'allons pas partir tout de suite sur le continent africain, mais vers un texte mis en musique. Et vous allez comprendre pourquoi, le titre de ce texte, « Douce beauté ». Nous venons, Fariba Achtroudi, de partager ce douce beauté qui dit douce beauté, douze attraits, douze flammes, aux douze voix et doux riz et doux pleurs. Vous n'êtes que fin de douceur, ce qui n'est pas sans rappeler cette fameuse gelée royale que vous avez imaginée. Et c'est un texte anonyme qui a été mis en musique par Gabriel Bataille, qui est mort en 1630, et qui a été interprété par The Boston Camerata sous la direction de Joël Cohen. Mais en lisant votre ouvrage et en écoutant ces voix de femmes qui nous disent effectivement « Vous n'êtes que fin de douceur », on se dit que il y a une ingratitude dans le regard de l'homme parce que vieillir pour une femme, c'est peut-être une la palissade, mais on s'en rend compte dans le livre, c'est une terrible épreuve puisque vous allez révéler ce qui se cache derrière cette gelée royale et on a l'impression qu'il y a une aliénation du temps. Est-ce que vous aussi, à travers ce livre, vous aviez envie de parler de cette dénonciation puisque vous êtes une femme, vous avez un rapport au temps et que vous aussi, voilà.
Je pense que notre rapport au temps, c'est, vous avez mis le doigt sur un point très important pour les femmes. Le rapport au temps est totalement différent, à mon sens, hein, entre femmes et hommes. Il y a plusieurs raisons. Déjà, raisons naturelles, j'allais dire, justice ou injustice, je n'en sais rien, je ne juge pas la nature, c'est comme ça. C'est que nous, notre horloge biologique est bien comptée. Et pas pour les hommes, déjà ça. Deuxième chose, c'est d'ordre beaucoup plus historique, c'est-à-dire que, étant donné que l'histoire a été menée par les hommes et qu'à un moment, la déesse femme a été écartée et que le dieu unique est arrivé, il a géré le monde dans l'imaginaire et dans les faits, la femme a eu le rôle effectivement seconde, n'a jamais été égale de l'homme, et donc justement douce femme, douceur, mère, donc voilà. Et un homme vieux et laid peut avoir du charme, et comme dit Benoît de Croul, une vieillarde, comme elle le dit d'ailleurs en féminisant le nom, eh ben on lui trouve rarement du charme ou du, vous voyez.
Mais Fariba, je te dis, vous qui arpentez les médias, qui arpentez l'image, vous avez toujours cette mèche blanche avec vous. Donc c'est une manière de revendiquer finalement un regard tranquille sur ce temps qui passe. C'est une forme de rébellion.
Oui, moi j'ai un regard très tranquille. C'est parce que je pense que là, j'ai dans la tête, je n'ai jamais eu, je ne sais pas, j'ai hérité peut-être ça de mon père, j'ai eu cette confiance... en tant qu'individu avant de me considérer comme femme. Je ne sais pas, j'ai jamais eu ce problème. Je veux dire, je suis très fière de mes rides, je ne les ai jamais cachées, je ne cache jamais mon âge. Je ne sais pas, je ne suis peut-être pas complexée, mais je suis peut-être assez courtisée. Je n'en sais rien, je ne sais pas d'où ça vient.
Assez courtisée ?
Oui, je suis très courtisée, donc tout va bien.
Tant que l'on a le pouvoir de séduire, on ne sent pas...
Je pense que le pouvoir de séduire aussi, c'est à l'intérieur. Ça n'a rien à voir. Je peux être courtisée sans être maquillée, sans être en me regardant dans la glace, en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que je suis effrayante. Donc vous voyez, ce n'est pas une question d'apparence. Je pense que justement, je suis peut-être courtisée pour autre chose que ma mèche blanche ou que mes yeux noirs ou que... j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire.
Exercez aussi, on revient encore à l'Iran, cette fascination du regard extérieur en se disant, cette femme vient d'un pays qui véhicule des images qui ne sont pas forcément symboles d'émancipation féminine, et pourtant elle est très libre de parole, et pourtant son père était un mathématicien reconnu.
L'exotisme, vous voulez dire, non ?
Une forme d'exotisme intelligent, justement.
Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je peux être également, au contraire, très... On peut me fuir, comme beaucoup de femmes qui peuvent avoir du caractère, pas simplement moi. Donc les deux sont vrais. Je fais très peur également, c'est pas vrai. Donc vous voyez, je pense que justement un rapport d'égal à égal fait que... Mais en même temps, je peux être très seule également, parce que je n'accepte pas en tant que femme n'importe quelle sorte de relation, parce que je suis femme et parce que j'ai peur de ma solitude.
Et pour écrire, il faut être seule.
Exactement. Et en plus, je ne sais pas, j'ai été aimée. Je pense que j'ai été très aimée par mon père. Du coup, j'ai été très aimée par les hommes. Je pense qu'il y a un rapport, un lien direct entre la fille et le père et ce qui suit après. Je le crois, hein, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'âge ne m'a jamais posé problème. Peut-être qu'un jour, je viendrai vous dire, oui, ça commence à me poser problème, vous voyez. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas ça qui me pose problème. C'est le jour où je ne pourrai plus nager physiquement, vous voyez, je veux dire la vieillesse physique, effectivement. Là, je serai très triste, parce que tant que je peux nager, aller tous les jours faire mon trois quarts d'heure de natation, ben je m'estime très heureuse. Yeah.
Dans votre livre, Fariba Ashtroudi, vous commencez par ces mots. Luxe, calme et volupté pour les Happy Few qui termineront leur séjour lors du festival de jazz qu'organise le Spa Zen Divine pour son lancement. Extrait évidemment de ce que raconte votre journaliste de son travail d'investigation, entre guillemets, et luxe, calme et volupté sont évidemment au cœur de cette invitation au voyage que vient d'interpréter pour nous Régine Crespin, accompagnée par Janine Reiss au piano, Baudelaire, mise en musique par Henri Duparc, luxe, calme et volupté, ô combien trompeuse finalement.
Oui, ce n'est pas du tout les mêmes luxe, calme et volupté, effectivement. Luxe, calme et volupté, vous lisez un poème, comme vous dites, vous écoutez un morceau sublime comme on vient d'écouter, c'est autre chose que d'être capable, enfin pour ce genre de luxe, calme et volupté, en ce moment dans les palaces, de payer 1 000 euros la nuit, et que dis-je, 2 000 euros la nuit et 1 000 euros les soins, etc. Ça va même parfois jusqu'à 15 000 euros. Vous voyez, ça dépend de quel palace. Donc,
parce que ce que vous voulez nous dire, point d'interrogation, c'est que l'Europe se perd dans une sorte de matérialisme pour échapper à ses propres démons. Est-ce que vous racontez à travers la jolie vie royale, est-ce qu'on peut vous lire sous cet angle-là aussi?
Vous savez, je veux dire, les privilèges ont toujours existé. Ce que je dénonce dans ce livre, c'est effectivement l'écart en ce moment, c'est-à-dire le capitalisme totalement sauvage qui fait que un trois quarts de la population du monde vit avec un dollar par tête,
comme on dit.
Exactement. Et il y a des gens qui distribuent des millions en disant tu veux 1 000 000, tiens, 1 000 000 pour toi parce que j'ai perdu la
comme
tête.
Comme cette famille à Lancourt.
Mais voilà, c'est ça. Et il n'y a pas que la famille à Lancourt. Vous voyez, vous allez en
Iran,
Sûr. Exactement. Partout. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec les subprimes, et on vient en plus de voir un peu la continuation de cette horreur qui s'est passée aux États-Unis en ce moment, vous vous dites il y a quelque chose qui ne va pas.
Et comme le temps passe, il y a une phrase que vous mettez d'ailleurs sur votre site internet, mais qui colle à la peau de ce roman et de ce que vous êtes, cette phrase de Walter Benjamin qui dit « Chaque fascisme est l'envers d'une révolution ratée ». C'est
absolument
ça au fond qui vous anime,
tout
votre crainte.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je me dis que la démocratie qu'on est en train de lapider, de dilapider en ce moment, justement, c'est au lieu que le monde se démocratise à travers la mondialisation, ce qu'on espérait, c'est que le monde est en train de se barbariser au contraire.
Mais en même temps, c'est cette mondialisation qui peut faire en sorte que Ahmadinejad, qui n'est pas votre ami, on l'aura compris, tombe de son piédestal.
Tout à fait. Justement, j'en parle également quand j'ai l'occasion justement de dire que s'il y a une mondialisation avec un universalisme...
Alors, éclairé.
Éclairé à un universalisme humaniste. Avec tout ce que cela comporte. Vous voyez, entre la droite, comme on dit, la droite républicaine et le fascisme, il y a un monde. Entre un capitalisme industriel et un capitalisme financier, il y a un monde. C'est ça. On est sur la corde raide en ce moment, en se disant... Soit, effectivement, c'est la fin d'un empire, la fin de l'empire américain. Vous voyez ce film magnifique canadien. Et c'est les barbares qui vont arriver et en tête l'islamisme, parce que c'est vraiment une idéologie qui porte, contrairement à ce qu'on veut faire croire que c'est des fous furieux. Et non, il y a une idéologie derrière. Alors, évidemment, une idéologie totalement rétrograde. Soit on essaye de sauver les acquis des Lumières, les acquis d'une révolution démocratique.
Fariba, oui. Fariba Ashtroudi, on sent votre amour de ces valeurs. Mais votre héroïne, là, cette journaliste dans la Gelée Royale, on ne va pas révéler la fin.
Non.
Mais cette journaliste, quand même, elle est un peu responsable de ce déclin parce qu'on a l'impression qu'elle ne croit plus tellement en cette dimension civique de sa profession. Alors, elle voit d'autres confrères qui, à travers des journaux soi-disant, entre guillemets, plus libres, en tout cas plus frondeurs, vont peut-être révéler ce qu'elle ne peut pas écrire dans son propre journal. Mais on a le sentiment qu'elle aussi, elle est responsable de ce que vous dites, c'est-à-dire ces valeurs qui fondent au soleil de l'obscurantisme. Pardon pour cet oxymore, mais c'est vrai.
Non, tout à fait, mais c'est pour ça qu'elle le vit mal. Et finalement, elle décide finalement d'aller jusqu'au bout de cette enquête. C'est parce que dès qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais qu'elle ne peut pas, au sein de son journal, de mener cette enquête, elle décide de le faire seule. Elle décide en prenant les risques, et elle prend les risques jusqu'au bout grâce à son camarade Lamné qui travaille. Donc c'est un golden boy, Black, évidemment, justement.
Oui, un clin d'œil sur... la nouvelle forme d'intégration économique.
Et non, et puis ça, et surtout l'identité nationale, c'était également ça, parce que il a beau être français, évidemment de parents d'origine africaine et guadeloupéenne, mais il est quand même pas considéré comme un français à part entière. Vous savez, c'est tout ce qui me choque en ce moment. J'ai essayé de faire un petit clin d'œil à ça. Donc elle, grâce à ce camarade et grâce à ma machin, elle continue son enquête. Elle le dit elle-même. Elle est en porte-à-faux avec elle-même. Elle dit, si je quitte la rédaction, si je donne ma démission, je serai à la rue parce qu'il y a la crise, mais en même temps, je vis mal. Donc, elle continue quand même jusqu'au bout et elle quitte finalement, la fin, comme vous l'avez dit, elle quitte quand même son journal, elle laisse tout en pan, elle part à Cuba pour essayer d'écrire son livre.
On cherche toujours des utopies là où on peut les trouver, mais Fariba Chtroudi, le temps passe car les émissions vieillissent aussi. Et comme nous avons beaucoup parlé de gelée royale ce soir, il nous fallait évidemment conclure par le vol du bourdon. Ça paraissait tout à fait évident. Dans une version pianistique avec un certain, vous avez toussé, c'est l'émotion. Voilà donc le vol du bourdon interprété par Georges Siffra. Vol du bourdon pour conclure ce chemin rêvant. Merci Fariba Chtroudi d'être venu nous parler de gelée royale. Comment on dit au revoir en iranien ?
Khuda hafiz.
Bravo, vous le savez. Nous saluons l'équipe merveilleuse qui était avec nous ce soir. Olivier Dupré s'occupait de la prise de son sous la houlette éclairée de Marie Grou. Et Martine Monnier a même trouvé du miel pour le thé, n'est-ce pas?
Absolument.
Après des histoires de miel, des histoires tout court avec Véronique Sauger sur France Musique.